Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Habla usted Español? À mon accent déplorable, vous comprenez que je ne suis jamais allé à l'étranger pour parfaire les langues. Contrairement aux 100 000 jeunes et plus qui chaque année tentent l'expérience, quelques semaines, quelques mois, voire une année entière, une expérience qui n'est d'ailleurs pas uniquement linguistique, c'est pour beaucoup aussi une première occasion de vivre sans les parents sur le dos, de gérer un budget avec parfois des fins de mois difficiles et peut-être également de se découvrir soi-même. Plus que la maîtrise d'une langue, ces voyages sont l'occasion d'une transformation intime. Ils font du bien, ils forment la jeunesse, mais on se demande aujourd'hui quand partir, à quel âge, où, quand interrompre ses études, combien de temps? Vous vous posez ces questions? Vous avez les réponses? Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou bien laissez-nous des notes vocales sur l'appli de France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Rédactrice en chef de Pomme d'Api, ma vie de parent, c'est la chronique du mercredi. Je sais que vous allez nous raconter que vous et les voyages linguistiques, ça fait deux, voire trois.
Ouais, voire quatre. Et puis mes propres techniques ratées aussi pour rendre mes enfants totalement bilingues.
Mais ça va venir, ça va venir. Vous nous raconterez tout ça dans une grosse demi-heure. Merci d'être avec nous. Grand bien vous fasse. C'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter. Thomas Chauvineau. Grand bien vous fasse.
C'est la première fois que j'ai vraiment été seul.
C'est la première fois que je me sens aussi perdu.
Que je me suis vraiment découvert.
C'est la première fois que je tisse des liens avec des personnes provenant du monde entier.
C'est la première fois que j'ai dû étudier dans une autre langue.
J'ai appris des choses que je n'aurais jamais apprises si je n'étais pas venu ici.
Témoignage d'étudiants Erasmus aux Pays-Bas, Amsterdam, pour le documentaire de Sébastien Leguet et Mathieu Drejoux. Erasmus, notre plus belle année, c'était diffusé dans l'émission Infrarouge sur France 2. Et quatre invités pour parler ce matin de ces voyages qui forment la jeunesse, selon l'adage. Lucette Collin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence, vous étiez maître de conférence au département sciences de l'éducation et vous avez notamment travaillé sur les échanges linguistiques à Paris 8, n'est-ce pas?
Oui.
David Groison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Phosphore, dont la couverture est consacrée ce mois-ci aux fake news et à l'Ukraine.
Exactement.
Évidemment. Et puis Mathilde Biotté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des écoles, vous êtes du côté de Besançon. Et vous avez publié votre mémoire de fin d'études qui vous a consacré, professeur des écoles, qui s'appelait « Les voyages forment la jeunesse, quel apprentissage lors des voyages scolaires ?» On aura évidemment l'occasion de reparler tout au long de l'émission des voyages scolaires. Et enfin, Juliette Pascal, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 20 ans, vous êtes en double licence histoire et éco à Paris 1. Et vous avez participé à de nombreux... pas de nombreux, mais en tout cas plusieurs voyages à l'étranger. Pourquoi la première fois vous êtes parti?
C'est une bonne question qu'on me pose très souvent. La première fois quand on part, c'est vraiment l'envie de découvrir autre chose, de rencontrer d'autres personnes qu'on ne pourrait pas rencontrer à Paris, parce que du coup je viens de Paris. Et puis j'ai grandi avec ma mère qui me parlait de voyage, donc... J'avais envie un peu d'expérimenter, moi aussi.
Mais vous étiez jeune, vous n'aviez pas 18 ans.
Non. Non, mon premier voyage, mon premier chantier, j'avais 16 ans. L'année d'après, à 17 ans, je suis partie au Guatemala. Et après, à 18 ans, je suis partie un an en Italie.
16 ans au Guatemala, vous parliez l'espagnol?
Pas du tout. Pas du tout, du tout.
Donc c'est pas un frein?
Non, surtout que j'étais avec des gens qui parlaient plus ou moins bien espagnol, qui l'avaient du moins étudié au lycée. Non, c'est pas un frein parce que on se comprend très bien quand on essaye d'échanger avec des gens qui veulent échanger, c'est très simple d'échanger. Puis souvent, dans beaucoup de pays où je suis partie, j'ai rencontré des gens qui parlaient français, qui parlaient anglais aussi. Donc non, ça a jamais été un frein pour la rencontre et l'échange.
Parce que vous savez qu'en France, on a toujours un problème avec les langues étrangères.
Oui.
Et vous dites que finalement, quand on est sur le terrain, on se débrouille.
Oui, oui, oui. Et surtout, on apprend. Moi, je suis à chacun de mes voyages, j'ai vraiment amélioré mon niveau en langue. Et alors, j'ai beaucoup appris au lycée aussi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je parle anglais et italien et je les ai appris à l'étranger, quoi. Donc.
Au lycée un peu quand même, pour aussi, faire plaisir à vos profs d'anglais.
Non, bien sûr, non, les bases, c'est vrai que c'est au lycée, mais c'est vrai que toute la partie discuter, être à l'aise à l'oral, être capable de parler sans préparer, Ça, c'est... ça s'apprend vraiment en parlant avec des gens.
Sur le tas, comme on dit.
C'est ça,
et
exactement.
Avec quel enrichissement, bon, en dehors évidemment de cette pratique des langues, vous revenez de ces voyages ? Je veux dire, l'enrichissement plutôt personnel, plutôt intime.
Alors, je dirais qu'on apprend beaucoup à chaque fois, et surtout pas forcément ce qu'on attend quand on part. J'aurais du mal à quantifier tout ce que j'ai appris, parce qu'aujourd'hui, ma vie serait probablement pas du tout la même si j'étais pas partie faire tous ces voyages. Je dirais que le premier apprentissage qui m'a marquée, c'est le rapport au temps. Parce que dans beaucoup de pays où je suis partie, j'ai appris que le temps ne fonctionnait pas du tout pareil qu'en France. Et du coup, j'ai appris à prendre beaucoup plus de recul sur la manière dont j'étais tout le temps pressée. C'est vrai qu'à Paris, on court pour prendre le métro alors que le prochain, il est dans 2 minutes. Et c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça où je me suis dit, ok, ça, finalement, j'ai pas forcément besoin de toujours faire attention parce que ça ne va pas forcément affecter les autres. Et puis moi, finalement, ça me détend plus, donc...
David Groison, donc Juliette avait, n'avait pas 18 ans, 16 ans quand elle est partie pour son premier voyage. Est-ce qu'il y a un âge pour partir comme ça à l'étranger ?
Alors, à chaque âge correspond à un voyage possible, en fait. C'est-à-dire que si le but, c'est d'apprendre une langue, de faire de l'anglais, il y a des séjours linguistiques qui existent dès le collège. Il existe même des campus en France, en fait, où on peut faire des séjours linguistiques, où on parle anglais, mais en restant sur le territoire français.
Moins drôle, quand même.
C'est moins drôle. Bah, ça peut être drôle, parce que, du coup, ils customisent en mode Harry Potter, ou en mode autour du sport, d'une passion, parce que ce que dit Juliette, qui est vraie à tout âge, c'est qu'aussi on apprend l'anglais, on apprend une langue, par exemple, en faisant des choses. Et ça, les organismes de séjour linguistique l'ont bien compris. C'est-à-dire, on fait du sport, on fait des activités, on peut faire de la cuisine, on peut. Et nous, à Bayard, on a des titres en anglais, I Love English, où l'idée, c'est de proposer aussi, effectivement, des activités à faire en anglais, parce que c'est comme ça qu'on apprend plus que. Qu'en révisant ces verbes irréguliers ou en faisant un peu de grammaire. Et globalement, sur cette idée reçue un peu des Français qui sont mauvais en anglais, moi je trouve que les jeunes Français parlent de mieux en mieux anglais, notamment parce qu'il y a ce bain de langue de la musique, mais aussi de Netflix, mais aussi des séries qui regardent en...
Ou des
en
jeux vidéo qui peuvent jouer
des
en
jeux
ligne
vidéo avec des forums dans lesquels ils discutent en anglais. Et globalement, tout le monde fait des progrès.
Lucette Collin, est-ce qu'il y a cette dimension justement de... Enfin, quand on part en voyage, il n'y a pas que cette dimension justement de l'apprentissage de la langue. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Oui, ça va beaucoup plus loin. Et on s'aperçoit là que avec l'expérience de Juliette, que c'est assez difficile d'ailleurs de dire tout ce qu'on apprend. Très souvent, les jeunes disent on n'est plus le même. Mais ils n'arrivent pas à expliquer ce changement, parce que ça touche, oui, toute la personnalité. Alors, ça fait peur aussi, parce que on a besoin, et peut-être les parents, ils ont besoin d'avoir une sûreté. Est-ce qu'il va bien apprendre des choses, des savoirs qui sont très objectivables, qu'on peut définir.
On peut quantifier.
Quantifier. Alors, bien sûr, l'apprentissage de la langue, là, ça peut se quantifier. D'où la tendance, d'ailleurs, à transformer tous ces beaucoup, disons, d'échanges à l'étranger en séjour linguistique. Alors que même dans un séjour linguistique, il peut se jouer autre chose. Mais on fait un test au départ, un test à l'arrivée, et l'enfant, on s'aperçoit qu'il a beaucoup plus de savoir. Donc, autour de la langue, il y a bien sûr, parce que ce dont on se rend compte, c'est que dans tous les commentaires, c'est qu'il s'agit quand même d'apprendre autre chose, et autrement qu'à l'école. Il y a quelque chose de plus qui est amené. Il y a la langue de la communication, mais je pense aussi qu'il y aurait, on pourrait dire, la langue des affects, qui convoque beaucoup plus de transformation personnelle.
Et on l'a évoqué, mais donc c'est possible de partir dès la sixième. Il y a des structures qui encadrent les collégiens et qui proposent à des collégiens d'aller passer parfois quelques mois, 3-4 mois, dans des familles d'accueil et suivre la scolarité à l'étranger. C'est une bonne chose pour vous de commencer si jeune ?
Oh ben ça, on peut même commencer très petit, maternelle. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un engouement d'ailleurs pour l'apprentissage précoce.
Oui, mais on ne va pas envoyer les petits-enfants de 3 ans à l'étranger pendant 3 mois.
Non, la langue, mais, oui, mais quelques jours ou dans des formules, si l'enfant est assez mature. Il y a un engouement pour l'apprentissage précoce, avec l'idée que plus on apprend tôt, mieux c'est. Mais bien sûr... et tous les organismes le mettent en avant. Il faut s'adapter au niveau de l'enfant, à ses aspirations, à ses rapports en termes de socialisation. Mais chacun peut trouver sa formule, quelque part.
Mathilde Biotté, vous qui êtes professeure des écoles, à quel âge, selon vous, on peut commencer à faire un séjour à l'étranger? Quel que soit le type de séjour, hein, séjour scolaire, séjour en famille...
Le souci, c'est que plus les enfants sont petits, plus l'aspect psychologique rentre en compte. Et ce qui peut être plus compliqué, c'est la séparation avec les parents, la perte des repères de la maison, etc. Donc en général, si un voyage à l'étranger est organisé, ce serait plutôt pour CM1, CM2.
Pas avant, selon vous?
C'est possible avant aussi. C'est possible avant aussi, mais comme on disait, donc il faut que ce soit vraiment adapté à l'âge de l'enfant, et puis que plus l'enfant est petit, forcément plus le séjour sera court.
Alors, on l'a dit, c'est donc possible dès le collège, mais en même temps, le système scolaire français favorise pas forcément ces échanges dans la mesure où on peut négocier un trimestre, disons, avec l'établissement scolaire dans lequel auquel on appartient. Au-delà, on vous dit OK, vous partez, mais vous redoublez quand vous revenez. Hein, alors que certains pays, au contraire, proposent le font comme une forme de validation d'acquis et proposent de conserver l'année. David Croizan.
Alors, bonne nouvelle. Du coup, dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse, du coup, il y a des mouvements. Il y a eu des annonces en France de se dire que dès la seconde, il y aura une option mobilité qui pourra être valorisée dans un parcours scolaire.
Donc, qui commencerait l'an prochain.
À partir de l'an prochain, effectivement, de se dire voilà, 3-4 semaines dans le cadre d'un projet dans son année de seconde qui peut être effectivement plutôt monté par les enseignants. Et puis, là aussi, encore en première, en terminale, que d'un coup, ces moments de mobilité puissent être valorisés, pris en compte. Et on voit bien, de toute façon, à quel point, on l'a dit depuis le début de l'émission, à quel point c'est important pour la formation d'un être humain, au même titre qu'une première amitié, un premier amour, une première expérience à l'étranger, ça transforme intérieurement, ça permet de changer le regard aussi sur, vous parliez, Juliette, du métro, de notre regard sur qui on est comme Français, comme Européen, comme habitant d'une ville ou d'un village, etc. Tout ça, c'est effectivement important comme aussi rite de passage pour devenir un adulte accompli. Ouais.
Alors, il y a un film, évidemment, auquel on pense quand on parle de séjour à l'étranger. Et pour les étudiants, hein, c'est le film L'Auberge espagnole. On peut imaginer, ça fait 20 ans, que l'Erasmus a changé depuis. Mais c'est quand même un peu comme une Madeleine de Proust. Ça fait toujours plaisir de l'écouter à nouveau.
Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus.
Ouais. Bon alors, pour un dossier d'Erasmus, pour un DEA, c'est pas compliqué, ça vous devriez le savoir, c'est sur la petite fiche qu'elle est avec le dossier. Il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici, il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas, il vous faut l'accord de l'université d'accueil, l'accord de cette université, votre carte de mutuelle étudiant, faut que vous me la donniez, vous êtes à la SMEAP ou à la MNEF?
MNEF.
Bon, bah alors dans ce cas-là, il faut aussi que vous alliez au bureau de la MNEF, au bâtiment D, au rez-de-chaussée, pour obtenir le formulaire E111. Hein? Oui, bah faites pas. Si vous n'avez pas ce documentaire-là, vous pourrez pas vous faire rembourser vos frais médicaux et vos médicaments une fois que vous serez sur place, d'accord? Puis les autres choses, bah, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, l'intitulé de votre DEA, enfin toutes ces choses-là, et puis voilà.
Ça fait 20 ans, hein, ce film L'Auberge espagnole. On aurait pu imaginer que ça avait changé, mais Juliette, vous nous dites non, c'est toujours non, un peu pareil.
L'administration à la fac.
À la fac.
Ah ouais. Toujours un peu bordélique. Mais bon, ça fait partie du voyage.
Vous n'êtes pas passée par Erasmus, vous
non.
avez suivi un autre parcours. Alors,
oui.
Quel est-elle?
Quel est-il? Moi, je suis partie avec le Corps européen de solidarité, anciennement SVE, donc Service volontaire européen. Alors, ça faisait partie d'Erasmus, ça n'en fait plus partie, je crois. Il y a des volontariats courts et des volontariats longs. Donc, les courts, on peut en faire autant qu'on veut toute sa vie. Moi, j'ai un ami qui en a fait 17, c'est entre 18 et 30 ans. voire même plus des fois. Le volontariat long, en revanche, c'est une seule fois dans la vie, donc il faut bien en profiter. C'est entre 2 et 12 mois et entre 18 et 30 ans, du coup.
Je crois que même ça peut aller jusqu'à 40 ans, hein, dans certains.
Dans certains, mais c'est bon, ça dépend un peu des pays. Par exemple, les pays scandinaves, généralement, ils acceptent pas en dessous de 21 ans, parce que c'est la majorité là-bas, donc c'est aussi. Ça dépend des pays.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes aux jeunes de partir, donc Erasmus, les stages, les missions humanitaires, les petits boulots. Est-ce qu'on pourrait les lister, Lucette Collin ?
Je crois qu'il y a des grandes catégories. Il y a par exemple les séjours individuels et les séjours, c'est partir seul. Hein. Et par contre, il y a des séjours collectifs. Et tout ça, ça engage justement des expériences différentes. Hein. D'être seul dans une famille, c'est peut-être plus difficile pour certains enfants que d'être avec d'autres enfants qui parlent en plus parfois la même langue. On dira, c'est pas bon, mais ça rassure aussi. Hein, on peut partir avec des copains, des copines. Hein. Il y a aussi les séjours scolaires. Et les séjours scolaires, c'est intéressant justement pour les petits. Je voudrais revenir à ce qu'on disait. Moi, j'observais des séjours scolaires avec des enfants de classe élémentaire, de première année, de 7 ans, 18 ans, et ça se passait très bien. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des coups de cafard, mais comme on peut avoir un coup de cafard quand on va chez sa tante, même chez des gens un peu éloignés, avec une solidarité, justement, de classe. Et ça renforce aussi, ça renforçait quelque chose dans le groupe classe, au niveau des enfants. D'ailleurs, les enseignants étaient aussi très sensibles hein, à cette qualité d'être hors les murs hein, pour créer une dynamique comme ça chez leurs élèves.
C'est ce que vous racontez, ce que vous écrivez, Mathilde Biotet, dans votre mémoire « Les voyages forment la jeunesse ». Ce que vous avez pu constater, puisque vous-même, vous êtes aujourd'hui professeur des écoles, c'est qu'au cours de ces séjours, il y a des souvenirs communs qui se forment et finalement, ça forge presque l'identité d'une classe.
Oui, c'est ça. Et puis, ça permet aussi aux élèves de voir les enseignants dans une posture dans laquelle ils n'ont pas l'habitude de les voir. Et puis, c'est vrai que ça crée vraiment une dynamique. Et puis, ce sont des souvenirs qui restent sur des années. Lorsque j'ai fait mon mémoire, j'avais pu interroger d'autres enseignants qui m'ont dit que quelques années après, les élèves avaient encore des souvenirs des voyages effectués. Donc, des apprentissages qui restent informels, finalement.
Mais je pense d'ailleurs que la plupart de nos auditeurs qui sont partis en voyage il y a quelques années ont encore aussi des souvenirs. Et Gwenaëlle Boulay, j'ai l'impression que je vois sourire que vous vous souvenez des vôtres aussi.
Ouais, ouais, mais moi, c'est vrai que j'ai eu plus de mal avec les langues. Et du coup, c'est vrai que j'ai opté jeune adulte, dès que j'ai eu mes premières payes pour des voyages. Moi, je suis partie seule en Afrique, beaucoup. Et j'ai parcouru l'Afrique seule, comme ça. Et j'ai adoré aller dans des pays qui étaient francophones plus, même si dans les villages, ça parlait plus du tout français. Mais de pouvoir échanger sur la profondeur, justement, le rapport au temps qui est en Afrique, qui est quelque chose qui nous décentre complètement. C'est passionnant.
Les voyages à l'étranger ce matin dans Grand Bien vous fasse. On attend toujours vos témoignages, vos réactions, vos questions aussi au 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter. Vous pouvez nous écrire ou bien nous laisser des notes vocales. L'Angleterre, après le Canada et la Belgique, est l'une des destinations favorites des étudiants et c'est aussi le pays du groupe légendaire qu'on écoute maintenant. Vous êtes bien sur France Inter. Tonight. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. You shouldn't start leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop
supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me.
Hey, hey, hey!
Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh.
I like
don't stop
it.
Me, don't stop me.
Have a good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh.
Sonic man out of you.
Don't
stop me now.
I'm having such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
try
now.
I'm having a good time.
Don't stop
yes,
me
I'm
now.
Having a good time. I don't wanna stop at all.
Difficile de prendre la parole sur la voix de Freddie Mercury, c'est Queen, Don't Stop Me Now. Toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de l'émission.
Hein ? Avoir un en anglais, on n'a pas idée.
Grand bien vous fasse.
Je suis pas doué pour les langues.
Tu vas le devenir.
Thomas Chauvineau.
Tu partiras en Angleterre pour un mois. The next week, you'll be going to London, my boy. You understand ?
Sur France Inter.
I understand, Louis de Funès, un extrait du film Les Grandes Vacances qu'on vient d'entendre et qu'on s'intéresse ce matin en effet à ses séjours à l'étranger pour parfaire ou non d'ailleurs les langues étrangères avec Juliette Pascal qui est étudiante, qui a fait nombreux séjours à l'étranger, Lucette Collin, maître de conférence, David Groison, rédacteur en chef du magazine Phosphore et Mathilde Biotet qui est professeur des écoles. Alors c'est vrai que dans ce film de Funès, on voit son fils se parfaire en Angleterre et parfaire la pratique de la langue anglaise, mais sur le papier, on se rend compte que finalement, ça marche pas toujours l'apprentissage des langues quand on part à l'étranger. J'en veux pour preuve les propos que je lisais hier soir en m'intéressant à l'émission de Jean-Luc Breton, qui est secrétaire général de l'Association des professeurs de langues vivantes, qui disait « Ces voyages sont très peu utiles linguistiquement. Après une virée à Londres d'une semaine, les élèves rentrent davantage avec des tasses à l'effigie de la reine ou des porte-clés en forme de Tower Bridge qu'avec une parfaite maîtrise de la langue de Shakespeare. » Qu'est-ce que vous en pensez, Lucette Collin ?
Oh, il a raison, hein, mais c'est peut-être pas pour ça qu'il faut les remettre en cause.
Non, puis ce sont les voyages scolaires d'une semaine, c'est pas
oui,
la même chose que de partir
bon,
plusieurs mois.
Alors, ce que ça indique, c'est qu'il y a effectivement toujours un soupçon. Et je trouve que ce soupçon sur les voyages à l'étranger est particulièrement développé pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes profiteraient de ces voyages pour s'amuser... ça serait des idiots du voyage, les jeunes. Hein. Tout ça, là, avec un certain mépris, quelque part, c'est le même mépris qu'on retrouve d'ailleurs entre du voyageur par rapport au touriste. Hein. Alors que souvent, Et ce mépris, c'est toujours... c'est l'autre. Hein. Nous, je suis sûre ici qu'on se sent tous des voyageurs et pas,
des touristes.
Hein. C'est toujours l'autre. Donc, quelque chose qui se joue au niveau de la distinction. Il y aurait un usage cultivé du voyage et un usage quelque peu idiot. Et les jeunes souffrent de cette vision... avec ce danger de vouloir canaliser certains dispositifs, c'est-à-dire de les scolariser pour qu'ils ne puissent pas vivre quelque chose dans une autonomie.
Juliette Pascal, vous avez cette sensation ?
Du moins, j'ai la sensation qu'on attend toujours effectivement des compétences du voyage, on attend à ce qu'on rentre et qu'on dise « j'ai appris ça, ça et ça, je sais faire ça, ça et ça ». Alors que vous l'avez très bien dit, c'est pas du tout l'enjeu du voyage, quoi. On apprend vraiment à vivre autrement, à découvrir autrement. Quand on rentre, on comprend d'ailleurs notre vie autrement. Et c'est vrai que souvent, quand je suis revenue dans les études après mon voyage en Italie, mes professeurs en prépa m'ont beaucoup demandé si c'était compliqué au début de revenir, comme si, je sais pas, j'avais tout perdu en l'espace d'un an. Et il y avait un peu cette inquiétude, oui, de est-ce que je serais capable de finalement de reprendre une vie normale, entre guillemets, alors que au final, on rentre construit de tellement de choses qu'on a plein d'outils pour s'en sortir très bien. C'est pas les mêmes outils que beaucoup de gens, mais c'est d'autres outils alternatifs.
Et puis pas les mêmes outils qui sont sanctionnés par l'école.
Exactement.
Sur Facebook, Isabelle nous dit « Ma fille aînée a voulu partir en Angleterre pour perfectionner son anglais à la fin de son DUT. Nous n'étions pas favorables, nous la trouvions trop jeune. Elle a tenu bon, elle est partie un an et cette césure lui a fait un bien fou. Elle a coupé le cordon, elle est revenue bilingue, elle a repris ses études. Elle était jeune fille au pair et elle a choisi le métier d'instit après cette expérience. Elle a gagné en maturité, en ouverture d'esprit. Nous avons bien fait de lui faire confiance sans regret, même si ça a été une expérience pénible pour nous, les parents, entre parenthèses. Inquiétude, manque, déchirement. Nous sommes aussi au téléphone avec Véronique. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour Thomas, merci à tous.
Eh ben, merci de nous appeler au standard de France Inter 01 45 24 7000. Vous vouliez témoigner. Vous êtes mère de 3 enfants et les 3 sont partis.
Oui, tout à fait. Mes aînés ont 21 ans, le troisième a 19 ans. Et je rebondis sur ce que disait votre invité il y a quelques minutes. Le troisième est parti à 12 ans pendant 6 mois dans une famille allemande. L'autre est parti 6 mois dans une famille espagnole à 13 ans. Et notre fille, 4 mois en Irlande à 14 ans. Et puis, elle est partie ensuite un an à 16 ans et demi, entre la seconde et la première, à Phoenix, en Arizona. Ils ont lié des... Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait votre invité. Au niveau scolaire, ils n'ont eu aucune difficulté ensuite à revenir au collège et au lycée. Par contre, ils ont vraiment appris à rencontrer l'autre, à apprendre à s'adapter dans un nouvel environnement, à surmonter leurs difficultés, à se confronter à la différence. Et surtout, ils ont pris confiance en eux et ils se sont aperçus que leur monde, c'est en effet le monde, c'est pouvoir rencontrer l'autre, c'est pouvoir s'enrichir des différences. C'est rentrer aussi dans le mode de pensée de l'autre pour apprendre à le comprendre. Et aujourd'hui, ils sont tous étudiants, ils sont tous en échange Erasmus, ils parcourent le monde et je dirais qu'ils sont devenus en quelque sorte des citoyens du monde. Mmh. Et les échanges, c'est plus que des échanges. Eux, ça a été véritablement des immersions dans le pays. Et c'est vraiment, pour moi en tant que parent, l'enjeu il est vraiment là, c'est de permettre à nos enfants de prendre confiance en eux et de constater que par eux-mêmes, par leur expérience, la différence est une richesse et que il faut pas avoir peur, il faut...
Alors vous dites, il faut pas avoir peur Véronique, mais quand on est parent et qu'on laisse partir son enfant qui a 12-13 ans, comme les vôtres, ce qui est votre cas, donc on est quand même un peu inquiet, non?
Alors c'est vrai, j'avouerai que ça a été plus difficile pour nous les parents de les laisser partir que pour eux sur le terrain de vivre cette expérience extraordinaire. Nous, ce qui nous a rassurés, c'est que sur place, l'association avait des correspondants locaux qui les appelaient régulièrement au téléphone et les suivaient vraiment de près. Donc c'est vrai que ça nous a rassurés. Après, je pense qu'il faut faire confiance aux enfants, à leur grande capacité d'adaptation, à leur soif, à leur curiosité, à leur il faut faire confiance à ces enfants. Ils ont en eux les ressources et les forces nécessaires pour surmonter des petits coups de blues. Il y en a eu et ça c'est vrai. Mais quand ils relisent leur expérience maintenant ils disent que ça a été le point de départ de leur construction en tant que jeunes maintenant. Et c'est vraiment si j'ai un message à faire passer aux parents, c'est laissez vos enfants partir, vraiment laissez
N'ayez
vos enfants
peur.
Partir. N'ayez pas peur et ils en ressortiront grandis, construits et ils deviendront citoyens du monde et c'est ce qu'on peut en tant que parents, c'est vraiment ce qu'on peut espérer pour nos enfants.
Eh ben merci Véronique de nous avoir fait part de votre témoignage enthousiasmant et enthousiaste. Bonne journée à vous, merci de nous avoir appelé.
Merci infiniment, bonne journée à vous, au revoir.
C'est vrai qu'on peut quand même s'inquiéter, David Groison. Est-ce qu'il y a des organismes en particulier auxquels il faut s'adresser à l'inverse, des organismes auxquels il faut éviter de s'adresser. Enfin voilà, comment bien préparer ce voyage en amont ?
Oui, oui, il y a des organismes sérieux qui sont regroupés sous ensemble. Il y a un leader, l'EC, sur les séjours linguistiques. Auquel on peut faire confiance dans cette partie-là. Ensuite, il y a effectivement d'autres types de voyages. Quand on dit après 18 ans, on est en autonomie, que ça soit, comme vous le disiez, là, le corps européen de solidarité. Si on fait un job comme sur Facebook, la jeune fille qui partait, jeune fille au pair, etc. On est là, effectivement, il y a une prise de risque, c'est-à-dire on est jeune fille au pair dans une famille, ça peut mal se passer, etc. Mais on est face à la plus à des jeunes adultes. Et au fond, il y a quelque chose aussi dans l'apprentissage de la galère. C'est-à-dire que tous les jeunes qui reviennent ensuite de toutes ces expériences de césure, de petits jobs à l'étranger, de 6 mois, 1 an d'études à l'étranger, ils vont d'abord raconter aussi tous ces moments où la vie est un peu sortie de ses rails, en fait. Ou d'un coup,
Ces moments qui sont éminemment formateurs aussi.
Et qui sont éminemment formateurs, parce que c'est là où on découvre à la fois en soi des ressources, où on découvre qu'on a la capacité de rebondir. Et quand votre auditrice, la Véronique, disait, bah oui, il faut que les enfants quittent le domicile. Oui, il y a un moment où les enfants, ils vont quitter le domicile, ils vont couper le cordon. Quelque part, il y a une forme de petite répétition générale. Ça se joue en miniature à ce moment-là. Ils partent 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Mais quelque chose se dit pour les parents comme pour les enfants de comment possiblement ça va se passer.
Est-ce qu'il faut aussi s'intéresser à tous les sites internet qui existent et qui proposent des pistes, je pense notamment également aux mairies qui peuvent fournir des aides, pas forcément des aides financières, mais enfin des aides aux
jeunes
qui
souhaitent partir. Alors il y a à la fois beaucoup d'aides financières,
enfin,
il y a plein de possibilités d'aides financières, ça c'est sûr, c'est-à-dire que l'Erasmus, on en parlait tout à l'heure, le budget a doublé, service volontaire européen, devenu le corps européen de solidarité, ça aussi il y a des aides. Il y a une bourse aussi géniale, Zelija, qui vous donne de l'argent pour financer votre voyage et vous devez juste faire un carnet de voyage. Donc eux, ils ont dans leurs locaux des trésors de carnets de voyage depuis Philippe Labro dans les années 50 à aujourd'hui de gens qui sont partis. Il y avait dans Phosphore témoigné un jeune Ahmed, 18 ans, qui était parti à Jérusalem pour voir comment vivre ensemble ou pas, chrétiens, juifs et musulmans. C'est évidemment que c'est des voyages qui ont plus là une forme de gratuité ou en tout cas de plus de profondeur dans le moteur de départ, c'est-à-dire c'est pas apprendre l'anglais, c'est d'un coup quelque chose qui leur tient à cœur d'aller voir des façons de vivre dans d'autres pays. Il y a les visas work and travel en Nouvelle-Zélande, en Australie, G1 aux États-Unis pour aller travailler là-bas. Il y a des organismes qui vous aident à la fois pour faire toutes ces démarches sur le visa et puis pour vous aider à trouver des jobs pour travailler effectivement comme plongeur dans un restaurant, jeune fille au pair ou faire vendeur de t-shirts dans un magasin.
Oui. Il y a néanmoins la question du coût, Lucette Collin. Est-ce que ça coûte cher de partir à l'étranger, que ce soit 6 mois, 1 an ?
Oui, on ne peut pas dénier qu'il y a un coût économique. Ce n'est pas n'importe qui envoie son enfant pour un séjour linguistique au mois de juillet en Angleterre. Hein. Ça, c'est clair. D'où d'ailleurs l'école. L'importance aussi que l'école compense un peu cela, mais ce n'est pas non plus gratuit. Et il y a des choses qui sont très très délicates. Je me souviens donc d'un séjour à partir d'une classe qui était vraiment dans un quartier très défavorisé, et en discutant avec les parents, les parents se plaignait, disait avec beaucoup de pudeur que des coûts auxquels parfois on ne pense pas, c'est de racheter par exemple une chemise de nuit, c'est-à-dire de pas oser que sa gamine parte avec sa chemise de nuit habituelle qui est un peu déchirée, etc. Mmh. Bon, des petites choses comme ça, oui, c'est clair que c'est pas rien. Je me souviens d'avoir essayé vraiment de convaincre une de mes étudiantes de partir. J'avais trouvé un Erasmus privé, je dirais, hein, avec en Allemagne. Elle me disait que c'était pas possible, elle pouvait pas, elle travaillait, elle faisait ses études en bossant, elle avait pas la possibilité d'arrêter son job, etc.
Hein? David Groisman, est-ce qu'il y a moyen de les rendre encore plus démocratiques? Erasmus y a notamment contribué, mais alors, manifestement on voit que c'est pas suffisant.
Parce que à l'inverse, par exemple, il y a 15 jours j'étais au lycée Brassac, qui est un lycée pro de la photo à Paris, les IUT de photo et les BTS de photo ne prennent pas beaucoup d'élèves de BTS qui vont tous au Québec, en fait, parce que il y a pas d'issue pour les lycées pro photo en études supérieures de photo en France. Donc il y a aussi à l'étranger, en Belgique, on le sait qu'il y a des voies veto, etc. Le Québec a un accord aussi avec la France où on paye des frais de scolarité extrêmement réduits. Il y a des bourses des régions, des départements, comme vous le dites. Et puis alors, avant demain midi, donc il faut se dépêcher, mais tous les jeunes de 18 ans qui le veulent, il y a un programme européen aussi qui est hyper excitant, qui offre des billets de train pour cet été, pour tous les jeunes de 18 ans qui le veulent. Ils auront un billet de train pour voyager pendant un mois en Union Européenne, comme ils le souhaitent.
Et là, où est-ce qu'on trouve les informations et le billet
Discover
de train?
Discover EU.
Ben voilà. Dépêchez-vous, donc c'est jusqu'à demain midi. Hein, c'est
ouais, ça exactement.
Sur Facebook, Dom nous dit merci pour cette émission, mais on ne parle pas du coût de tous ces échanges. Donc c'est ce qu'on vient de faire, hein, notamment pour cette auditrice qui a fait partir ses trois enfants. Juliette nous dit bonjour. Mon premier voyage sans ma famille s'est fait en 2001 à Montréal. J'avais 11 ans et je suis partie 3 semaines avec ma classe, celle de mon petit collège de campagne. Une expérience déterminante qui a fait la voyageuse que je suis maintenant. Je viens de rentrer de 4 mois de voyage professionnel sur une île déserte. Et je vis à La Réunion depuis 3 ans. Merci pour vos émissions. Elle a fait un séjour linguistique qui n'a pas été très très concluant. Gwenaëlle Boulay, rédactrice en chef de Pomme d'Api, Ma vie de parent, c'est la chronique du mercredi.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Hey shit. Aujourd'hui, Gwenaëlle, vous allez nous apprendre, vous allez partager avec nous vos astuces pour développer les compétences linguistiques de vos enfants.
Mais oui, en effet, Thomas. Parce qu'il faut savoir que j'ai moi-même été à la bonne école pour apprendre l'anglais et qu'aujourd'hui, je peux me targuer d'être franchement, mais alors franchement, so nul en langue. Donc, à quoi c'est dû?
Je vous pose la question.
Oui, à quoi c'est dû? Déjà, j'ai une famille de langue...
What's happened?
De langue franco-française, ma famille, déjà, hein, bon début. Et puis un début laborieux en 6e avec une prof complètement folle dingue, suivi d'un premier voyage au Pays de Galles organisé par le collège en fin de 6e. Donc à tout juste 11 ans, armée de 3 mots d'anglais, hello, please et thank you, ce que je trouvais pas mal,
c'est un bon début.
J'ai ainsi pu découvrir les joies de la gastronomie galloise dans une famille absolument odieuse. Ensuite, enchaînement en 5e avec la même prof, toujours aussi folle dingue, hein, et retentative de voyage grâce à un échange cette fois, toujours via le collège dont on notera les efforts et la ténacité. Donc très bel échange épistolaire avec ma correspondante Beth, à coup d'envoi de stickers kawaii et de gomme fantasy, et puis la semaine à Londres tant attendue, qui m'a permis de plonger directement à 12 ans dans un film de Ken Loach. Eh bien oui, parce que comme j'étais d'un collège de Montfermeil, dans le 93, le 9-3, la Seine-Saint-Denis, fallait quand même pas s'attendre à correspondre avec un collège de Notting Hill. Hein. Donc bref, il m'a fallu un peu des années pour détacher l'anglais de cette expérience quasi traumatique.
Et donc, avec vos enfants, vous aviez envie que ça se passe autrement?
Ben oui, parce que comme tous les parents qui ont raté un truc, j'ai eu le secret espoir de rattraper ce manque à travers eux. Mais dans ce domaine, comme dans bien d'autres, il y a bien un méga gap entre les objectifs et la réalité. Non, parce que dans le domaine des langues, on nous bassine tellement avec le fait que tout se joue très petit, avant 6 ans, plus on fait le tôt, plus ça marche, hein, que l'oreille se forme tout petit, etc., qu'au départ, je m'étais dit, tiens, faudra lui faire écouter de l'anglais pendant le congé mat. Mais bon, je sais pas ce qui s'est passé durant les 6 mois de congé maternité, une faille spatio-temporelle sans doute, mais entre les tétés, le changement de couche et la quête de sommeil, bah, j'ai complètement, mais alors complètement oublié l'anglais, quoi.
Et ensuite?
Bah, ensuite, autant dire qu'on a carrément plus pensé à rechercher une crèche bilingue ou un truc comme ça. Enfin, par bilingue, j'entends l'anglais, hein. Car au final, nos enfants étaient gardés par une délicieuse nounou marocaine, qui en plus de leur transmettre le goût de la boulette de couscous très jeune, leur a aussi appris les rudiments de l'arabe. Et oui, à 18 mois, nos enfants comprenaient l'arabe. Alors c'était super, mais ça faisait pas avancer le schmilblick de leur futur bilinguisme anglo-saxon. Du coup, quelques années plus tard, j'ai décidé de reprendre les choses en main, en m'inspirant des pays nordiques. Mais si, je suis sûre que vous aussi, on vous a rabattu les oreilles avec tous ces petits Danois, les petits Suédois, les autres Norvégiens, qui parce qu'ils ont des langues inconnues du reste du monde, sont biberonnés dès le plus jeune âge aux dessins animés anglais. Et donc, deviennent bilingues très rapidement. Donc voilà, j'avais trouvé. Un jour, j'ai fixé un deal. Allez, ok pour un dessin animé le mercredi en fin de journée, mais alors en anglais.
Résultat ?
Eh ben, rien du tout.
pourtant, ça marche un peu, l'anglais,
mais ouais,
comme
mais
ça,
je me
ça fonctionne.
Fier comme un paon avec mes deux enfants, regardant le livre de la jungle in English, avançant ainsi sur la voie du polyglottisme, ça se dit. Hein. Durant 10 minutes, j'ai regardé mes petits trésors froncer leurs sourcils pour essayer de comprendre. Et puis, je me disais, j'étais persuadée que la langue entrait en eux quasi magiquement.
Non, c'est pas possible, ça.
Ben non, la révolte a commencé à gronder. Je comprends rien. Mais oui, mais c'est normal, chérie. Au début, on comprend rien. Et puis, petit à petit, on apprend à reconnaître les mots. Et puis, 5 minutes plus tard. Mais je comprends toujours rien. Ah, mais oui, mais quand je te disais petit à petit, c'était, disons, sur plusieurs semaines, hein, sur plusieurs mois. Mais bon, là, ça a été les insoumis dans mon salon. Donc, déjà, on n'a pas le droit à beaucoup d'écrans. Alors, si on regarde, en plus, quand on le regarde, on comprend rien, c'est complètement nul. Donc, bon, échec total, projet enterré à jamais. Conclusion, ben, aujourd'hui, nous en sommes donc à un vague mix de Duolingo, d'apprentissage scolaire toujours aussi rébarbatif des verbes irréguliers, et de projet de séjour linguistique un jour, peut-être, si le budget le permet. Mais bon... Surtout, comme souvent en termes d'éducation, tendance lâcher prise, d'un bon gros Inch'Allah, après tout, là où leur mère a échoué, peut-être pourront-ils, eux, réussir.
En tout cas, on leur souhaite. Merci Gwenaëlle Boulet, votre chronique est à retrouver sur le site de l'émission. On s'intéresse ce matin au séjour à l'étranger et on attend toujours vos réactions, vos questions au 01 45 24 7000 ou bien sur l'appli de France Inter.
Je suis lent, dis-moi maman.
Lui aussi a fait un genre de voyage, quitter Paris pour retourner vivre chez ses parents en province et composer notamment cette chanson « Tout va trop vite », Miel de montagne, alias Milan.
France Inter. Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Chers parents, virgule, tout va très bien. Ma famille anglaise est très sympathique. Et je fais d'énormes progrès en anglais.
Ouais, bah nous on en a marre, hein. We go to the beach. Bye bye.
Let's go to the beach, un extrait du film à nous, les petites anglaises, pour continuer cette conversation que nous avons ce matin autour des séjours à l'étranger avec quatre invités, Lucette Collin, qui était maître de conférence, maîtresse de conférence au département sciences de l'éducation, David Groison, qui est rédacteur en chef de Phosphore, Juliette Pascal, qui est étudiante et qui a participé à de nombreux séjours, et Mathilde Biotet, qui est professeure des écoles. Mathilde Biotet, dans votre mémoire, vous avez écrit que vous jugez ces voyages à l'étranger essentiels, là où d'autres de vos confrères pourraient les juger facultatifs. Pour vous, non. Vous avez écrit ce mot « essentiel ». Mathilde Biotet ?
Oui, ils sont essentiels parce que... Oui ?
Oui, oui, nous, on vous entend, on vous entend. Il y a une petite coupure, mais vous êtes bien là. On vous entend.
Ils sont essentiels parce que, comme les invités l'ont dit précédemment, ils permettent aussi de donner confiance aux élèves qui partent ou aux étudiants qui partent, d'apprendre aussi l'autonomie et aussi surtout le vivre ensemble. Pour certains, ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à la vie en collectivité aussi, et c'est très important.
Donc toutes ces apprentissages qu'on appelle des apprentissages informels. Nous sommes aussi au téléphone avec Manon. Bonjour Manon.
Bonjour Thomas.
Vous nous appelez pour nous raconter un semestre que vous avez vécu à Hong Kong et qui, dites-vous, a changé votre vie.
Oui, alors c'est vrai, moi j'ai eu beaucoup de chance puisque je suis partie en voyage linguistique toute mon adolescence, de la cinquième à la seconde, mais j'ai...
Avec l'école ou grâce à vos parents qui avaient les moyens de vous le payer?
Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance puisque c'était grâce à mes parents, en fait j'avais des bonnes notes un peu partout sauf en allemand. Et donc chaque été, il m'envoyait à peu près 2 semaines en Allemagne pour rattraper mon niveau.
C'était un peu la punition quand même.
Oui, mais je suis pas tombée du tout amoureuse de l'allemand, mais de l'Allemagne, par contre, oui, tout à fait, et des voyages surtout. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait un voyage à Hong Kong dans le cadre de mes études. Là, pour le coup, c'était pas si cher que ça, puisqu'il y avait un partenariat entre les universités. Et j'ai pu, ça a changé ma vie. Moi, j'ai changé de projet de master après ce voyage. Mais surtout, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de chercher à faire plaisir à tout prix à mes parents. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais moi, à qui j'étais. Et pour ça, l'expérience d'être l'autre, d'être l'étranger dans un pays que je connaissais absolument pas, avec une langue, même si j'ai pris quelques cours de mandarin et de cantonais, j'allais jamais maîtriser la langue. Ça m'a vraiment changé et je suis devenue, je pense, une adulte en fait pendant ce voyage, pendant ces 6 mois-là.
Ben merci pour votre témoignage, Manon. Et puis sur Facebook, merci à vous, bonne journée. D'autres témoignages qui continuent de nous arriver. Justine nous dit « Mes voyages m'ont appris surtout l'humilité, la culture française, notamment via l'école, cultive une forme de supériorité de cette culture française, de la civilisation occidentale, que ce soit les langues, la littérature, la gastronomie, la science ou la médecine. Découvrir en immersion d'autres cultures permet de remettre ses croyances en perspective. » Et Ben qui nous écrit « Concernant le bienfait des séjours à l'étranger, je voudrais partager une expérience extraordinaire que nous menons avec des élèves de bac pro. Nous sommes dans un projet Erasmus avec 4 autres partenaires, espagnols, portugais, finlandais et allemands. Nous travaillons sur les objectifs de développement durable de l'ONU et nous rentrons d'une semaine en Finlande avec les réactions de nos élèves. Et les réactions de nos élèves ont été incroyables. Sur nos 4 ambassadeurs, 2 n'avaient jamais quitté la France. Une semaine peut changer une vie, nous dit Ben. Et c'est vrai, David Groison, vous êtes rédacteur en chef de Phosphore, du magazine Phosphore, c'est que Erasmus aujourd'hui, avec Erasmus+, c'est ouvert, c'est plus simplement des étudiants surdiplômés, mais ça concerne également notamment l'apprentissage.
Voilà, notamment les lycéens pro, pour qui effectivement c'est moins facile que pour l'auditrice précédente de sortir d'un territoire auquel ils sont assignés. Et donc cette idée que pendant une semaine, trois semaines, un mois, ils peuvent être à l'étranger. Ils peuvent des fois faire des stages à l'étranger, donc découvrir aussi un univers professionnel. C'est effectivement une voie qui est suivie, qui est encore trop rare, mais sur lequel effectivement il y a un travail important à mener, parce qu'on voit bien à chaque fois qu'au fond les moteurs pour partir sont apprendre l'anglais, mais au fond le retour est toujours surprenant, c'est-à-dire que ce qui est magnifique dans le voyage c'est cette surprise là où chacun revient en disant bah voilà j'ai trouvé ma voie, je suis devenue jeune fille au pair et du coup j'ai décidé d'être institutrice, je suis partie à Hong Kong et finalement du coup j'ai découvert que je voulais pas faire plaisir à mes parents mais je voulais être moi-même. C'est ce voyage là qui est formidable au final.
Juliette, c'est vrai que la question du retour elle se pose, elle s'anticipe peut-être, parce que j'imagine qu'après 6 mois passés à l'étranger, revenir chez papa, maman, retrouver son quotidien, tout doit paraître un peu fade, non ?
Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je suis rentrée en période Covid, donc c'était pas forcément prévu que je rentre à ce moment-là. Le retour, il est... Alors, pour moi, il s'est particulièrement bien passé, en partie parce que mon projet n'était pas terminé quand je suis rentrée à Paris et que je suis restée bloquée en France. Du coup, j'ai gardé un contact très fort avec tous les autres volontaires et on quitte jamais vraiment le service volontaire européen parce que moi, encore aujourd'hui, l'été, je pars avec mes amis du Corps européen de solidarité. Ils font partie intégrante de ma vie. Je les appelle. J'ai ma coloc qui est luxembourgeoise qui vient régulièrement à Paris. Donc,
cultiver du coup des amitiés européennes.
Oui, complètement. Et oui, se dire aussi qu'on a des amis un peu partout en Europe, qu'on peut aller voir, qu'eux, ils peuvent venir. C'est vrai que c'est peut-être la plus grande richesse de ce voyage.
Je lisais le témoignage d'un jeune qui était parti et qui racontait qu'au bout d'un moment, il rêvait non plus dans sa langue maternelle, mais en anglais. En l'occurrence, il était en Angleterre. Ça vous est arrivé, par exemple, de rêver en italien ?
Alors, c'est vrai que souvent, il y a ce truc quand on rentre, c'est... déjà, on n'a pas les mots dans la bonne langue. Moi, je parlais beaucoup en anglais et en italien, et des fois, le mot ne me venait pas en français. C'était très frustrant. Mais oui, ça arrive de rêver, surtout pour des expressions très typiques de certains pays. On peut rêver dans d'autres langues.
Pour le coup, là, le voyage forme pas seulement la jeunesse, il la transforme même carrément si vous rêvez dans une autre langue. Eh bien, merci d'avoir été en direct avec nous dans Grand Bien vous fasse ce matin. Cette émission peut se réécouter où vous voulez et quand vous voulez sur franceinter.fr. C'est fini pour aujourd'hui, mais Grand Bien vous fasse continue demain, 10h. Pour une émission consacrée au naturisme, quoi de plus agréable avec le retour des beaux jours de nager à poil dans la mer ou s'allonger nu sur une pelouse. Les bienfaits du naturisme, on attend déjà vos réactions et vos témoignages sur franceinter.fr.